Donc nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 3, et on va déjà lire ce passage, on va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les cinq princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens, les Héviens, qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains de Cushan-Rishéathaïm, roi de Mésopotamie, et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan-Rishéathaïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël, et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan-Rishéathaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan-Rishéathaïm. Le pays fut en repos pendant 40 ans, et Othniel, fils de Kenaz, mourut. Donc, à partir de ce passage du livre des Juges, eh bien nous entrons vraiment dans le descriptif historique des événements de cette période sombre de l'histoire d'Israël. Vous le savez, on l'a déjà assez répété plusieurs fois que parce qu'Israël avait refusé de marcher avec le Seigneur, avait désobéi au commandement que Dieu avait donné à ce peuple d'Israël par rapport à la conquête du pays de Canaan, eh bien, les conséquences ont été terribles pour Israël, tant, oui, sur le plan, on va dire, national, sur le plan peut-être économique et géographique, etc., mais avant toute chose, sur le plan spirituel. Et les trois premiers du verset, du chapitre 3, trois premiers versets, pardon, je recommence là, je fourche ce soir. Les premiers versets du chapitre 3, nous expliquent que l'Éternel avait justement permis à ces nations cananéennes de rester dans le pays pour des raisons assez particulières, n'est-ce pas? On sait que Dieu ne laisse pas impuni le péché et la désobéissance. Et je crois que c'est la première des choses que nous retenons, c'est que effectivement, si Dieu a laissé Israël dans cette situation-là, c'était aussi par rapport à leur désobéissance, leur idolâtrie, etc. Mais c'était aussi pour éprouver, pour tester la foi des Israélites. Et puis finalement aussi, on peut noter qu'il y avait cette importante formation que le peuple d'Israël devait suivre, c'était aussi pour que cette nouvelle génération sache que c'est que la guerre. Ça peut nous paraître surprenant, parce que aujourd'hui, en tant qu'Église, nous ne sommes pas appelés à faire la guerre physique, mais une guerre spirituelle, dans la prière, dans le témoignage, dans la défense de l'Évangile. Mais il faut aussi remettre les choses dans leur contexte historique par rapport à la situation d'Israël. Face à ses ennemis qui voulaient la destruction d'Israël. Mais je crois que aussi qu'avec la période des juges et même toute cette période de conquête de Canaan, il était difficile de dissocier eh bien cette guerre physique et guerre spirituelle. Parce que la raison pour laquelle Dieu avait ordonné à Israël de chasser les habitants du pays, c'était à cause de ces pays qui étaient dans une idolâtrie profonde, avec des pratiques macabres, ignobles, dépravées. Et c'est la raison pour laquelle cette période d'Israël a été aussi très difficile, parce qu'il y avait aussi cette guerre physique à laquelle ils étaient appelés. Mais voilà, on sait que Dieu ici va mettre à l'épreuve son peuple rebelle. Et il a utilisé donc cet échec leur échec de manque de foi, leur échec par rapport à la conquête qu'ils auraient dû accomplir. Et donc l'Éternel les a éprouvés. Hein, et donc on regarde à ce mot éprouvé, même dans l'hébreu, cela signifie vraiment pouvoir démontrer quelque chose. Hein, on sait que éprouver, ça a cette notion de tester, de vérifier quelque chose, mais aussi de démontrer hein, que une personne, ce qu'elle est, hein, de montrer sa valeur, ce dont elle est capable, et donc de dévoiler la réalité. Malheureusement, la manière dont le peuple d'Israël est tombé dans l'idolâtrie révèle déjà, de manière évidente, ben, que leur cœur était éloigné de Dieu. Alors la grande question, c'est est-ce que c'est Dieu qui avait besoin vraiment de savoir hein, que si Israël hein, était fidèle à lui, est-ce que c'est Dieu qui avait besoin de savoir? Parce que c'est vrai que quand on lit ces premiers versets, que l'Éternel donc avait éprouvé le peuple d'Israël, et que l'idée c'était vraiment pour qu'il sache, que l'Éternel sache où en était Israël. Hein, il y a plusieurs passages dans les Écritures comme cela où ça peut nous surprendre et on se demande pourquoi est-ce que Dieu avait besoin de savoir. On pense par exemple au récit hein, de Genèse 22 avec le sacrifice d'Isaac hein, et l'ange de l'Éternel, ou l'Éternel, parce que là c'est l'ange de l'Éternel, c'est Christ, mais qui dit maintenant je sais. Je sais que tu ne m'as pas refusé ton fils. Alors, c'est la grande question un peu théologique hein, pour beaucoup, c'est mais Dieu, il est omniscient, ça, il nous le dit à travers les Écritures. Alors, il y a certains qui croient que Dieu, sa connaissance, elle est limitée par rapport au choix que nous, on va faire, il ne sait pas ce qu'on va faire plus tard. Je ne crois pas. Hein. Je crois qu'il faut prendre d'abord ce que Dieu nous dit à son sujet, qu'il sait toutes choses, il est omniscient, et que dans les passages comme celui-ci, ou comme celui de Genèse, ou d'autres, eh bien, il faut comprendre que Dieu, il veut montrer quelque chose, et ceux qui ont besoin de savoir, c'est nous, c'est pas l'Éternel. Mais c'est aussi pour que l'Éternel nous mette dans cette situation où, eh bien, nous devons faire un choix pour démontrer ben, notre foi, notre amour envers le Seigneur. Ce l'on sait, c'est que quand Dieu permet les épreuves, c'est qu'il veut nous enseigner. L'objectif des épreuves, c'est pour enseigner son peuple, ses enfants. Et donc, le Seigneur avait laissé ses ennemis hein, d'Israël dans le pays. Donc, on a vu, afin de les former, de les enseigner, hein, pour que, eh bien, dans les combats spirituels qu'ils devaient mener, eh bien, ils aient déjà une expérience, qu'ils sachent comment. Eh bien, mener ces batailles spirituelles. Et donc Dieu voulait qu'il soit fort et qu'il sache donc comment combattre cet ennemi lorsqu'il viendrait. On comprend que cette vie en Canaan n'était pas une vie facile pour le peuple d'Israël, de toute évidence, et qu'il y avait beaucoup d'opposition, il y avait beaucoup de pression. Il y a aussi des moments dans notre vie où Dieu va nous laisser aussi dans de telles situations, par rapport aux conséquences de nos choix. Parfois, ça va être des situations qui ne sont pas résolues ou des situations qui ne vont pas dans le sens où on le voudrait. Hein, parfois, c'est des gens qui, on leur refuse un emploi, hein, ils n'ont pas eu le poste qu'ils attendaient. Parfois, c'est des situations de conflit entre chrétiens qui refusent la réconciliation. Mais il y a ces moments-là où Dieu va nous laisser dans ces situations qui sont des conséquences de nos actes pour nous enseigner et nous amener à déjà un nous rapprocher de lui, mais aussi à prendre les décisions nécessaires pour sortir de cette situation-là. Il y a une chose qu'il nous faut aussi également bien comprendre, c'est que Dieu n'est pas responsable de garder, de maintenir notre vie en règle. Nous sommes responsables pour nous-mêmes. Nous sommes responsables des conséquences de nos actions, de nos paroles. Et donc Dieu, oui, va permettre des situations auxquelles on ne va pas s'attendre, des situations plus ou moins difficiles, afin que on puisse pleinement vivre par la foi, c'est-à-dire en dépendant de sa puissance à lui, de sa grâce à lui, et non pas de rechercher à accomplir les choses ou à résoudre les choses par nos propres forces, et ce pour nourrir notre orgueil. Ce que l'on voit donc se produire malheureusement par rapport à Israël dans les versets 5 à 7, c'est que oui, Israël s'est compromis. Il y a cette interaction avec les peuples cananéens. Et ici, bon, il nous est dit qu'ils habitèrent au milieu de ces différentes tribus cananéennes. Et l'idée vraiment, c'est que ils se sont non seulement installés et fondé leur vie là, de fonder les foyers, etc. Mais c'est aussi l'idée que ils se sont intégrés, voilà, je cherchais le mot, j'avais insertion à la tête, mais intégrés au peuple cananéen. Mais alors, quand Israël est arrivé dans ce pays cananéen, ben voilà, ils avaient eu l'ordre de chasser toutes les tribus de ce pays, parce que l'Éternel voulait aussi préserver son peuple de l'influence de ces peuples cananéens. On le sait qu'Israël devait spirituellement, mais ça impliquait aussi physiquement quelque part, de rester à l'écart de ce qui n'était pas saint. Et ce peuple d'Israël est unique parmi tous les peuples de la terre. C'est ce peuple qui a été choisi par l'Éternel, qui a été mis à part pour le service. Et on sait, malheureusement, que ils n'ont pas été un peuple fidèle. Mais le plan de Dieu pour ce peuple, c'était vraiment de garder une nation sainte afin que cette nation puisse avoir une influence sur les autres et non pas l'inverse. Pour nous, en tant que chrétiens, il y a cette même idée, n'est-ce pas? Cette idée que nous devons être séparés du monde. 1 de Corinthiens 6, 17 nous dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Cet commandement que on a dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament de soyez saints car je suis saint, ça doit être notre prérogative à nous également aujourd'hui. Mais alors, dans quelle mesure est-ce que, voilà, cette poursuite de la sainteté dans notre vie, jusqu'où ça doit aller par rapport à nos interactions avec les autres? N'oublions pas que oui, nous sommes un peuple acquis, nous appartenons au Seigneur, il nous a aimés, il nous a choisis, et il veut que nous poursuivions cette sainteté dans notre vie. Mais en même temps, il nous dit, voilà, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est le Seigneur qui dit ça. C'est-à-dire que ça ne nous appelle pas à nous de ne plus vivre dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, mais de ne pas vivre comme cette société-là. Là, le problème pour Israël, c'était qu'une fois installé, une fois que il y a cette influence, une fois que il y a peut-être des liens qui se forment, des liens économiques qui se forment, etc. Et au fur et à mesure, qu'est-ce que cela produit? Cela produit ce que nous voyons dans ce passage, c'est qu'à un moment donné, eh bien, les enfants d'Israël donnèrent de leurs fils et de leurs filles en mariage au peuple cananéen. Quelle est l'étape suivante? Vous avez noté? Et ils servirent leur Dieu. C'est-à-dire que Dieu, dans sa loi pour Israël, avait clairement montré que Israël ne devait pas chercher des mariages en dehors du peuple d'Israël, que s'il y avait des personnes, d'autres nations qui venaient et qui se convertissaient à l'Éternel, que là, il n'y avait aucun souci. Mais voilà la situation dans laquelle Israël s'est mis. C'est-à-dire qu'ils se sont placés dans une situation où leur influence n'était pas aussi grande que l'influence des peuples autour d'eux. Et au final, ils ont commencé à se marier les uns avec les autres et de servir leur Dieu. Mais notez l'étape qui vient juste après, verset 7. Ils firent ce qui déplaît à l'Éternel, bon, l'idolâtrie. Et ils oublièrent l'Éternel. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais prendre à la légère l'influence qu'un monde pécheur peut avoir sur un croyant. Et c'est pour ça que nous aussi, comme Israël avait besoin d'apprendre ce que c'est que la guerre, nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin d'apprendre ce que c'est que cette guerre spirituelle qui fait rage. La parole de Dieu, hein, nous montre bien qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, hein, contre l'adversaire. Hein, c'est une guerre spirituelle qui se mène dans la prière, qui se mène dans la fidélité aux Écritures. Ça, c'est la guerre spirituelle à laquelle nous sommes appelés. Mais voilà, si nous ne sommes pas formés à cela, l'influence du monde, bien vite, va gagner le cœur des chrétiens. Alors peut-être que, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, peut-être que le peuple d'Israël, les enfants d'Israël se sont dit, oh mais ces Cananéens, ils sont pas si mauvais que ça finalement. Écoute, il est très gentil avec moi, ce voisin. Hein? Ce sont pas des monstres. Bon, il y a pas vraiment de raison pour ne pas les épouser. Bah, écoute, l'amour, c'est bien. Dieu est amour, de ce que ça dit, il n'y a pas de souci, n'est-ce pas? Et peut-être que, qui sait, en les épousant, peut-être que c'est eux qui viendront à l'Éternel. Ça, on l'entend aujourd'hui. On l'entend de la bouche de nombreux chrétiens qui se disent que bah, c'est pas si grave. Ils sont pas si... Ce sont des bonnes personnes. Ce qui est important, c'est que l'on s'aime. Et puis si on se marie, c'est le plan de Dieu. De toute façon, il veut qu'on se marie, il veut pas qu'on vive dans le concubinage, de toute façon. Donc, on fait une bonne chose que de se marier. Vous voyez un peu comment le raisonnement va toujours vers le bas lorsque nous cédons aux influences du péché autour de nous. Et malheureusement pour Israël, en s'alliant par mariage aux tribus voisines, ils ont commencé à perdre leur propre identité. Ils ont commencé à perdre ce qui rendait ce peuple si particulier et si différent des autres. Un peuple avec un Dieu unique, le Dieu vivant et vrai, un peuple appelé à la sainteté, un peuple qui devait être une lumière pour les autres nations. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se laissent influencer et finalement, ils perdent entièrement leur identité. Parce que ce qui les rendait si spécifiques, c'est qu'ils avaient été choisis par Dieu et que Dieu avait certainement contracté cette alliance avec eux, mais eux étaient aussi d'accord avec cette alliance et ce sont eux qui se sont éloignés de Dieu et qui ont laissé loin derrière eux cette identité spirituelle qui était la leur. L'intégrité même de leur famille, hein, s'est effritée et ils ont rapidement perdu, hein, ce qui faisait cette singularité. Et ce même danger guette de nombreux chrétiens. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous approchons trop du monde, et quand on parle du monde, c'est pas juste les gens on ne parle pas de juste des gens dans la rue comme ça, on parle de ce système qui est entièrement dirigé par la nature pécheresse, d'accord? Sous l'influence de l'adversaire. C'est ça que la Bible appelle le monde, d'accord? Et lorsque nous nous approchons trop près du monde qui nous entoure, on risque de se retrouver pris au piège par le péché du monde. Pensez-y, les personnes que nous fréquentons le plus sont ceux qui nous influencent le plus, n'est-ce pas? Alors, pour Damaris et moi, ça va faire maintenant, mois de juillet, ça va faire 23 ans qu'on est mariés. D'accord? Et je peux vous dire qu'elle a eu une grande influence dans ma vie. Je peux vous dire qu'il y a des choses que elle, de qui elle est, de sa foi, de sa marche avec le Seigneur, a influencé ma vie. Hein, au point de dire que bah, non, je ne suis plus le même homme que j'étais, hein, il y a 23 ans, parce qu'il y a eu cette influence-là. Parce qu'on passe énormément de temps ensemble. D'accord? Les personnes que nous fréquentons le plus vont être celles qui nous influencent le plus. Les choses que nous lisons, que nous écoutons, que nous regardons, sont celles qui vont nous influencer le plus. Les personnes avec qui nous nous plaisons vont être des indicateurs, eh bien, de la qualité, si vous voulez, hein, de notre relation avec le Seigneur. C'est-à-dire que Si je passe plus de temps avec des chrétiens, l'influence que je vais recevoir, et on sait bien que les chrétiens, personne n'est parfait, et qu'il y a divers degrés de maturité spirituelle chez les chrétiens, mais on comprend bien que si on passe plus de temps avec des frères et sœurs en Christ, l'influence que vont avoir les chrétiens de cela va être une influence bénéfique. Mais plus de temps on passe avec le monde, eh bien, plus il est difficile de lutter contre cette influence. Parce que la pression, elle est grande. Je peux le dire même par expérience personnelle. Hein, les fois où, quand j'étais plus jeune et que j'avais un travail dans le monde, pas dans le ministère, c'était dur de ne pas être influencé par les collègues, par leur comportement, par leur manière de parler, par leur humour, par leur façon, leur éthique de travail. Okay? C'est pas pour rien que Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 15, 33 que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est que c'est une réalité. Et c'est pour ça que Dieu, il veut qu'on se tienne à une certaine distance. Ça veut dire qu'on ne doit pas vivre dans des couvents, des abbayes, monastères et compagnies, retirés du monde. Non. Parce qu'on le sait, le Seigneur, on le voyait avec des gens de mauvaise vie, n'est-ce pas? Mais que faisait-il? Déjà, un, lui, il est Dieu. Donc, eux ne pouvaient pas l'influencer. Mais lui était une influence pour eux. Lui ne participait pas aux actions mauvaises. Il n'approuvait pas non plus les actions mauvaises et il n'avait pas peur non plus de dire aux gens quel était leur péché, hein, par crainte, par peur de les offenser. Non, au contraire, il voulait leur montrer cela par amour pour eux, pour qu'ils puissent connaître la vie éternelle, qu'ils puissent connaître la grâce. Nous sommes amenés à vivre dans ce monde, mais à ne pas vivre comme le monde. On doit interagir avec le monde parce que nous sommes appelés à être une lumière pour ce monde. Nous sommes appelés à partager l'évangile avec ce monde. Et on ne peut pas faire cela si on se retire du monde, n'est-ce pas? Mais voilà, nous devons garder des distances spirituelles. Parce que parfois, il n'y a qu'un pas entre marcher avec le monde et vivre comme le monde. Et ici, l'idolâtrie chez les Cananéens était quelque chose que, bon, on a déjà parlé de cela, donc je ne vais pas passer énormément de temps là-dedans, mais leur vie religieuse, leur vie culturelle était entièrement animée par le péché. Et lorsque les enfants d'Israël se sont installés là et qu'ils ont commencé à prendre des femmes, des époux hein, parmi les peuples cananéens, très vite ce mode de vie est devenu le leur. Ce n'est pas une question de culture, d'accord? Parce que certains vont dire, ah, mais ça c'est notre culture, c'est comme ça qu'on parle. On avait une voisine qui nous disait ça tout le temps. Ah, nous, notre culture, c'est ça. Et puis, bip, 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 bip. Je dis, non, ça, c'est pas de la culture, c'est un manque d'éducation. Mais on ne peut pas excuser le péché sous prétexte de culture. D'accord? Pourquoi? Parce que la culture n'a pas la prévalence sur la sainteté de Dieu. Sainteté à laquelle nous sommes appelés. Ce qui veut dire que nous sommes appelés à analyser chaque culture. Parce qu'on va trouver des bonnes choses dans les cultures, hein, dans les arts, les loisirs, etc., la musique. On va trouver des bonnes choses. Mais on doit être vigilant et analyser cela à la lumière des Écritures, sous la direction de l'Esprit-Saint, et se demander quelles pourraient être les conséquences si moi je participe à telle pratique de cette culture-ci. Parce que le même danger menace les chrétiens aujourd'hui qui se sont éloignés de Dieu. Hein, lorsqu'on refuse de prendre nos distances avec ce système du monde qui nous entoure, lorsque nous nous asservissons sans cesse aux personnes et aux choses du monde, eh bien, nous sommes en train de donner notre vie à ce monde. Et pour beaucoup même de chrétiens, d'offrir leurs propres enfants à ce monde. Toute culture Donc doit donc être examiné à la lumière des Écritures et déterminer si tel aspect plaît à Dieu ou non. Et on sait parce que Dieu nous montre ce qu'est sa sainteté. Et on peut comprendre que cette chose-ci et cette chose-là, ce sont des choses qui déplaisent à l'Éternel. Cela, il n'y a rien contre cela. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. D'accord? Mais voilà, dans la culture, on va retrouver une définition de la dynamique du couple, de la famille, de l'éthique du travail, le rapport aux autorités, les arts, les loisirs, hein, les médias, la musique, les films, etc. Toutes ces choses-là, on va retrouver ça dans di les différentes cultures. Et toutes ces choses-là vont être des influences dans notre vie. Okay? Je ne dis pas qu'il nous faut tout rejeter, mais il faut analyser, garder. Hein, ce qui est bon, rejeter ce qui est mauvais. Je crois que l'idée, quelque part, c'est comme quand on travaillait aux États-Unis, on travaillait à la chaîne, et parfois il y avait des produits qui étaient mal faits, et puis il y avait la machine tout de suite, ah, c'est pas le bon grammage pour ce produit, et puis on l'éjectait automatiquement, hein, c'était automatique. Il y a d'autres boulots où, voilà, la personne, elle doit faire un tri et dire, ah non, ça c'est pas bon, on jette. Parfois aussi, hein, dans des situations, je sais qu'avec mes enfants, on aimait bien regarder les émissions où il y a un gars qui se retrouve dans la nature et qui doit survivre. Et puis parfois, il trouve des carcasses de viande, d'animaux morts. Alors il est là avec son couteau et puis il regarde, il analyse, il dit, bon, ça c'est un peu pourri là par là, mais là il reste encore un morceau de viande qui est encore potable. Okay? Donc, ce qu'il a fait là. Le principe, c'est le même. Il a regardé à la situation, il a vu qu'il y avait un danger potentiel, parce que on sait bien qu'une carcasse dans la nature, très vite, il y a les bactéries, de nombreux scavengers, les charognards vont venir, et avec ça, ils ramènent leurs propres bactéries et machins, etc., dans la viande, et très vite, avec la chaleur du jour, très vite, une viande va devenir avariée. Donc, le gars, il sait ça. Donc, il prend ses précautions. Et pour nous, en tant que chrétiens, ce doit être le même, la même approche. C'est de regarder à la situation. On sait que c'est un monde pécheur. Mais on sait aussi que, y a encore des choses qui sont relativement bonnes, entre guillemets, hein, qui ne vont pas avoir une influence négative sur le chrétien, l'amener à pécher. Mais il y a d'autres choses, oui, c'est le cas. Et finalement, pour ce peuple d'Israël, il y a une certaine indifférence hein, qui s'est installée, parce qu'à chaque fois qu'il s'intégrait ainsi avec le peuple cananéen, il s'éloignait de Dieu. Et ce verset 7 tout de même, où il nous dit, ils oublièrent l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu. Je pourrais vous donner une liste de jeunes chrétiens avec qui j'ai grandi dans l'église, d'autres que je connaissais dans les camps, etc. Je pourrais vous faire une liste de ces jeunes qui, à la base, étaient dans ce contexte d'une bonne influence, dans une bonne église, mais qui n'ont pas su faire le tri par rapport à ce qu'il y a dans le monde. Et qui se sont détournés de Dieu. Et aujourd'hui, on ne les connaît plus. Non pas que nous, on ne cherche pas à les connaître, mais ils se sont tellement perdus dans le monde qu'eux-mêmes ont oublié qui est Dieu. Ils ne vivent plus pour lui. Ils ne cherchent même plus à lire sa parole ou à prier ou à aller à l'église. Rien. C'est presque une mort spirituelle, pratiquement. Et ça, c'est ce que l'on voit ici avec ce peuple d'Israël qui en vient à ce point où ils ignorent Dieu complètement. Ils ont cessé de se soucier de lui et de savoir ce que lui avait à dire, à rechercher sa volonté, à savoir ce qu'il devait faire. Mais voilà, c'est précisément là où beaucoup de chrétiens en sont arrivés de nos jours. La plupart des gens savent, ah, le Seigneur, il est là. Hein, ils savent que sa parole a quelque chose à leur dire par rapport à leur vie, par rapport à la manière dont ils doivent vivre. Ils reconnaissent quelque part l'autorité de Dieu parce qu'il est le Tout-Puissant. mais ils choisissent de l'ignorer. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés attirer par le monde. Ils ont subi cette influence sans savoir comment résister à cette influence, sans même chercher à résister à cette influence. Ou bien ils n'ont même pas cherché eux-mêmes à être une influence. Parce que je crois sincèrement que la meilleure manière de ne pas subir l'influence des autres, c'est de dire que moi je suis chrétien et je vais chercher à montrer aux autres que je suis chrétien et leur parler du Seigneur. Parce que quand on a cette démarche-là et cet état d'esprit-là, les autres vont pas nous influencer. Ah, peut-être qu'on risque de perdre des amis, entre guillemets, mais nous, en ayant cette approche-là, on a déjà un bouclier supplémentaire contre l'influence du monde. Et donc ils reconnaissent toutes ces choses, mais ils choisissent d'ignorer Dieu, d'ignorer sa parole. Ils ne l'écoutent pas. Ils ne le recherchent plus. Ils endurcissent leur cœur contre Dieu, contre sa parole, contre le Saint-Esprit. C'est une situation dangereuse. Parce qu'au final, comme j'ai dit, on va en parler un peu plus tard, parce que l'histoire de Samson, c'est bien plus tard dans le livre des Juges, mais de ce gâchis, de ce qui aurait pu être, de ce que Dieu aurait pu faire dans la vie de quelqu'un qui, si il avait eu ce désir de rechercher l'Éternel plutôt que je vais vivre tranquillement ma vie, m'établir avec les autres, ils sont différents, c'est pas si grave. Et puis, finalement, de se laisser attirer vers le monde au point où leur relation avec l'Éternel, avec Dieu, elle est quasi inexistante et ils oublient l'Éternel. Et on verra de voulant la prochaine fois qu'effectivement cela va amener un jugement sur Israël, mais aussi que Dieu dans sa grâce va susciter ce libérateur Othniel. Hein, il y en aura plusieurs choses à dire sur ce juge. Mais voilà, on entre donc dans cette période de description historique hein, du livre des juges. Et comme on l'a déjà dit, au fur et à mesure, on va voir que ça va être ce même cycle qu'on va avoir se mettre en place est toujours d'aller de plus en plus profond dans la déchéance spirituelle, dans la dépravité, etc. Pour nous, hein, il faut toujours garder à l'esprit de regarder ce livre des juges et de regarder à notre situation aujourd'hui, par rapport à notre société aujourd'hui, et de déterminer, est-ce que je suis en train de vivre et de prendre des décisions pour ma vie selon ce qui me paraît bon. Et à ce moment-là, je vais suivre le monde. Ou bien, je vais prendre la décision, comme juste quelques années auparavant avec Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y a un gros écart entre les deux. Mais c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de bien étudier ces choses et de veiller, hein, ne pas tomber dans ce même travers hein, que ce peuple d'Israël. Mais bon, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu ce soir?